Nous lisons le prophète Ésaïe au chapitre 19. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les jonques et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon « Je suis fils des sages, fils des anciens rois » Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel, désarmé, a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Noph sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. »
Voilà, bien-aimés, on a chanté « Sa parole est lumière, sa parole est sagesse, sa parole est vivante. » Et ô combien c'est la vérité. Ô combien, en chantant ce chant, en sachant cette lecture que nous allions faire aujourd'hui, eh bien, mon cœur pouvait le reconnaître ô combien les Écritures sont inspirées de Dieu. Elles sont vraiment la parole du Seigneur. Ces Écritures, Ésaïe qui a écrit environ 700 ans avant le Messie, ça veut dire il y a plus de 2500 ans, et elles sont toutes fraîches. Elles sont là comme sous nos yeux en train de s'accomplir. Mais quel Dieu nous avons! Combien on peut mettre toutes nos confiances en lui, comme on l'a chanté aussi. Combien on peut être rassuré, savoir qu'il est notre rocher et qu'on n'a pas besoin de se forcer à croire. Parce que quand par le Saint-Esprit nos yeux s'ouvrent, eh bien on serait bien plus fou de se perdre, d'aller vers le néant, que de se détourner de celui de qui nous recevons la pensée de l'éternité, mais aussi la pensée de l'actualité. Alors, ce matin, j'ai souhaité prendre cette parole d'Ésaïe 19, parce que je crois que c'est une parole qui est effectivement brûlante d'actualité. Dernièrement, j'avais parlé de ce qui se passait en Tunisie, et j'avais, je dirais, sans don prophétique, mais simplement lorsqu'on suit l'actualité jour après jour, qu'on connaît la parole de Dieu, eh bien on peut tout simplement prévoir des choses sans avoir forcément un don surnaturel, que ce que l'on voyait en Tunisie allait certainement se passer en Égypte et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et c'est donc exactement ce qui s'est passé. Et on ne se rend pas compte, mais en Égypte en ce moment, c'est presque le chaos. En Égypte en ce moment, c'est terrible. Il y a de nombreux morts. Il y a même des journalistes étrangers qui sont tabassés à mort. Et il y a toute la communauté internationale qui se lève. Il y a eu plus d'un million de personnes qui a marché dans les rues en Égypte. Ça va être le cas encore aujourd'hui. Et l'armée a tiré sur des manifestants. Et cette prophétie qu'on trouve dans Ésaïe 19, eh bien, je crois qu'elle est en train de s'accomplir sous nos yeux. Pourquoi elle s'accomplit sous nos yeux? Déjà, je donnerais un premier argument, si on peut le dire comme ça. C'est qu'il nous est dit au verset 5, « Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. » Et ça, c'est une chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire. Quand il dit « Les eaux de la mer, c'est les eaux du Nil », vous connaissez le delta du Nil, c'est une des régions les plus fertiles du Moyen-Orient. Ben, le prophète nous dit qu'elle va se dessécher. Et je crois que ça, c'est des prophéties qui sont proches de s'accomplir avec ces catastrophes qui ont déjà commencé depuis bien longtemps, qui s'intensifient. On parle notamment de réchauffement climatique, n'est-ce pas? Les glaciers qui fondent. Et soit ça se fera de manière naturelle, ou peut-être bien d'une manière surnaturelle de la part de Dieu. En tout cas, ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais accompli jusque-là, que les eaux du Nil se dessèchent. Et on est en droit de l'attendre parce que Jésus lui-même et les prophètes nous parlent de ces catastrophes puissantes qui vont aller en s'intensifiant. Et donc, en lisant le verset 1 et 2, on peut voir que ce qui se passe en ce moment même en Égypte, eh bien c'est noir sur blanc, ce que le prophète écrivait il y a 2700 ans. « Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. » Comme souvent vous le voyez dans les récits historiques de la Bible, vous savez, l'histoire dans la Bible, elle fait complètement partie de la révélation. Il y a environ 50% de toutes les écritures, c'est de l'histoire. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas des prières, c'est de l'histoire. Et l'histoire, dans la parole de Dieu, elle a un rôle capital. Parce que au travers de l'histoire, comme on lit ce verset, « Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. » L'Éternel vient agir dans l'histoire des hommes. Et ces choses qui nous sont compilées dans les Écritures, eh bien, elles sont prophéties, elles sont paroles de Dieu. L'histoire qui est compilée dans les Écritures est parole de Dieu. Les sages d'Israël, ils diront, si les écritures que vous avez font partie du canon, comme on le dit, ça veut dire ont été choisies souverainement par Dieu, alors que bien d'autres textes auraient pu être choisis, que ce soit dans les écritures de la première alliance ou de la nouvelle alliance, il y avait plein d'autres évangiles, il y avait plein d'autres prophètes. Vous savez quoi? Il y avait même des centaines et des centaines d'autres prophètes dans l'histoire d'Israël. Pourquoi seulement ceux-là ont été choisis? Parce que leur parole n'est pas une parole simplement qui s'accomplit et qui est terminée, c'est une parole qui demeure vivante, qui demeure lumière et qui traverse toute l'histoire. Et de la même manière, pourquoi les auteurs, inspirés par le Saint-Esprit, quand bien même l'histoire dans la Bible est 50% de l'écriture, pourquoi ce 50%-là? Ils auraient pu raconter beaucoup d'autres choses, ou ils auraient pu oublier d'autres choses. Mais le Saint-Esprit les a poussés à dire seulement ce qui nous est rappelé et ce que l'on peut lire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il agit dans l'histoire, parle par l'histoire, parle à son peuple, pour qu'il apprenne à le connaître, à connaître ses voies, à connaître sa manière d'agir, sa manière de sauver, bien sûr, et à connaître le plan du salut de Dieu. À apprendre à connaître sa main, à apprendre à savoir les choses passées pour vivre avec Dieu dans le présent et être tendu vers le futur. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. À savoir les choses qui viennent, parce que ce que Dieu a voulu compiler dans les Écritures nous parle comme une prophétie. Et donc, cette parole nous dit « L'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Et il est dit « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Et vous voyez, je vais vous lire aujourd'hui. Voilà ce que disent les informations. Moubarak, qui est le président, le roi, pourrait-on dire, d'Égypte, le pharaon de l'Égypte d'aujourd'hui. Le président Hosni Moubarak a annoncé ce jeudi à la chaîne de télévision américaine ABC qu'il ne souhaitait pas voir les Égyptiens se battre entre eux. À la place de Tahrir, les affrontements se poursuivent alors que les pro-Moubarak franchissent le cordon de l'armée séparant les deux camps. Il y a les pro-Moubarak, ceux qui sont pour que ce pharaon qui a dominé l'Égypte pendant environ 30 ans reste au pouvoir, et il y a tous ses opposants qui veulent renverser le pouvoir. Et voilà ce qui se passe depuis quelques jours, c'est qu'ils se battent entre eux. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Des partisans du président égyptien Hosni Moubarak ont franchi peu avant midi le cordon formé par l'armée pour séparer opposants et partisans du régime près de la place de Tahrir dans le centre du Caire. L'armée a dû se mettre entre ses frères égyptiens, entre ses amis égyptiens, parce qu'ils se battaient à mort. Parce qu'ils se battaient à mort. Les deux camps se sont jetés des pierres. Après une brève pause, après que l'armée a formé un cordon s'interposant entre partisans du président et opposants, empêchant les anti-Moubarak d'avancer. La bataille s'est alors déplacée vers une ruelle voisine où les partisans du régime ont jeté des cocktails Molotov alors que des coups de feu étaient entendus. Vous savez, là de nouveau, ce qui se passe en Égypte, ce qui nous est prophétisé pour l'Égypte, ce n'est pas que pour l'Égypte. C'est la même chose qui s'est passée il y a quelques jours au Liban. Le gouvernement libanais est tombé. Comme j'avais pu l'annoncer aussi, eh bien, le Hezbollah vient au pouvoir. C'est le premier ministre appuyé par le Hezbollah qui a été désigné par le président pour être le ministre et former un nouveau gouvernement. Et au Liban, il y a eu aussi des affrontements entre les pro-Hariri, dont la Syrie, avec le Hezbollah, ont assassiné le père. Voilà pourquoi ils ont quitté le gouvernement. Et les autres. Et il y a eu de violents affrontements. L'armée a dû aussi agir. Voyez. Et vous avez les frères musulmans qui appellent au renversement de Moubarak. Le mouvement islamiste des frères musulmans, première force de l'opposition égyptienne, a refusé de négocier avec le président Hosni Moubarak et son gouvernement pour mettre fin aux troubles. Les frères musulmans, ce mouvement islamiste qui est dans nos régions, dans nos pays ici, encore dans l'ombre pour ceux qui n'ont pas les yeux ouverts, il refuse de discuter et il a appelé à son renversement. Ce régime, disent-ils, son président, son adjoint, ses ministres, son parti et son parlement est fini. Nous le disons clairement, nous refusons de négocier avec lui parce qu'il a perdu toute légitimité. Et vous lisez au verset 11, « Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. L'Égypte, qui, dans la parole de Dieu, et je dirais presque depuis toujours, parce que c'est ce qu'elle est au Moyen-Orient, principe de stabilité, elle qui a fait ses alliances avec le monde occidental, la grande Égypte, qui lorsque la Ligue arabe se réunit, a tout son poids. Où est-il aujourd'hui? Où est-elle? Où est le Pharaon? Où sont ses princes? Où est son conseil? Où sont ses sages? Le président Moubarak, le Pharaon, voudrait se retirer, mais il n'ose pas, parce qu'il a peur du chaos. Effectivement, tout le monde se fait un grand souci, parce que le chaos s'annonce. Le chaos s'annonce. Alors toutes les puissances occidentales discutent entre elles pour essayer de trouver des solutions. Il veut démissionner, mais il craint le chaos. Il est triste. C'est terrible. C'est terrible. Moi, quand je disais cette parole, j'avais des larmes dans mon cœur. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible à quoi on doit en arriver pour que le Seigneur revienne dans sa gloire. À s'entretuer comme ceci. Et c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est le Seigneur qui agit pour amener toute chose à la lumière, montrer la haine dans les cœurs, et pour combattre le péché et la haine en installant son règne de paix. Alors, comme je vous l'ai dit, on lit dans les versets suivants que l'Égypte, le delta du Nil, pourrait-on dire, va s'assécher. Il y a des catastrophes qui viennent. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on peut le prévoir. Il va y avoir de gros problèmes en Égypte, certainement des famines qui vont venir, qui vont s'intensifier. Voyez, ces mercenaires, vous les retrouvez dans l'Apocalypse. Ces trafiquants qui trafiquaient avec Babylone. Et la parole nous dit que tous ces gens-là, tous ces militaires qui défendent encore l'Égypte, tous se jetteront, voudront se cacher dans les cavernes, parce que la colère de l'agneau sera venue. On peut lire juste ces quelques versets. L'Éternel vient en Égypte, et je crois que c'est encore là pour nous secouer et nous dire « L'Éternel vient, l'Éternel est proche ». S'il se passe ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Jordanie, je ne lirai pas ces informations, mais en Jordanie, c'est pareil. Le roi Abdallah, il a voulu négocier avec les opposants, frères musulmans, ils ne veulent pas négocier avec lui. Ils ont négocié un petit peu, ils ont rejeté. Et il y a un mouvement de soulèvement. Je regardais, chapitre 6, verset 12, pardon. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. C'est ce qui vient, bien-aimés. Et ce qui se passe nous assure que ces paroles, elles arrivent. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, on a lu, je ne vais pas tout relire, dans Ésaïe 19, que tous les pêcheurs, tous ceux qui tissent des étoffes blanches, les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Tout ce trafic qui se passe avec l'Égypte, entre le Moyen-Orient et ses puissances occidentales, ce trafic de vêtements, de pétrole, de tout ce à quoi vous pouvez penser, tout cela va être détruit. Et tous ces riches, tous ceux qui auront fait ces échanges, comme on voit dans d'autres passages de l'Apocalypse, eh bien, il nous est dit que tous, les esclaves et même les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Moubarak, il pensait subsister. Il pensait que son fils allait prendre sa succession. C'est pareil au Yémen. Il y a un président qui est là depuis plus de 30 ans. Il pensait résister. On lit dans les informations que les États-Unis ont été surpris par ce qui se passe en Égypte. Un pays stable. La Jordanie aussi. Le Liban. Il y a tout qui est en train d'être secoué. Et je vais y venir pour conclure. En Syrie, voilà que maintenant il y a des manifestations qui commencent, ainsi qu'à Gaza. Tout est ébranlé, et ces Occidentaux qui n'ont pas l'Esprit Saint, ni la parole qui est lumière et qui est sagesse, sont surpris de ce qui se passe. Ils sont surpris. Et c'est l'Éternel qui vient. Maintenant, Israël est en danger. Israël est en danger avec tout ça. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 123 et 124. Israël qui crie à Dieu, qui se confie en lui, qui fait mémoire, qu'Israël le dise. Comment aurions-nous pu nous faire, je paraphrase, si l'Éternel n'avait pas combattu pour nous? C'est déjà ce qui s'est passé en 48, en 67, en 73. Pour parler des plus grandes guerres. Mais entre toutes ces guerres, le pays n'a cessé d'être en guerre, n'a cessé d'être dans l'oppression, entouré de haine. Et donc Israël est en danger. Et ça, on le voit aussi dans l'actualité. Les frères musulmans veulent annuler l'accord de paix israélo-égyptien. La première chose, ils le clament haut et fort déjà, alors qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, on va briser cet accord de paix. Donc c'est ouvertement que cet islamisme, cet antisionisme, qui est un avatar de l'antisémitisme, cette haine d'Israël et cette haine des Juifs, est proclamée, pourrons-nous dire, en Égypte. On parle de la Turquie comme modèle de démocratie. Voyez ce qui s'est passé en Turquie ces derniers temps. Quel modèle de démocratie? On parle de l'Égypte, de dire, voyez ce qui se passe en Turquie. L'Égypte peut en être ainsi. Si les Occidentaux l'aident à avoir un vrai processus démocratique, certainement la Tunisie, le Yémen, le Liban et tous les autres. Vous voyez, il y a une anesthésie profonde de tous les dirigeants de ce monde. Ils sont vraiment frappés d'ivresse. Et ça, on le trouve aussi dans cette parole d'Ésaïe. Ce peuple qui est frappé d'ivresse. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un œuf ivre chancelle en vomissant. Et c'est ce qui se passe en Égypte, mais c'est ce qui se passe aussi dans ce monde. La Turquie, le Premier ministre Erdogan est arrivé au pouvoir, ainsi que le président Abdullah Gül. Ça nous montre ce qui est en train de se passer. C'est un grand danger pour Israël. Les islamistes sont arrivés au pouvoir. Ils ont coupé leurs relations alors qu'ils étaient pendant de longues années les plus grands alliés au Moyen-Orient d'Israël. Il y avait des coopérations militaires entre eux. Et maintenant, ils soutiennent le Hezbollah, le Hamas. Il n'y a qu'à voir avec ce qui s'est passé avec cette flottille. Et les relations sont, on pourrait le dire, coupées. Et même, le Premier ministre s'entretient avec le président iranien, vous voyez. Alors Israël est en danger. La France, on entend ça aujourd'hui aussi, elle veut tenir une nouvelle conférence de donateurs pour la Palestine. Mais attention cette fois, voyez comme nous avançons rapidement dans les temps. Cette fois, elle veut le faire à une seule condition, c'est que cette conférence débouche sur l'établissement d'un État palestinien. Voilà. Après, je vous avais annoncé la dernière fois les différents pays de l'Amérique du Sud qui ont commencé à reconnaître la Palestine comme un État indépendant. Ça a continué depuis. Et maintenant, comme je vous l'avais dit, ça commence. On pensait que c'était l'Espagne les premiers. Ils ne l'ont pas fait officiellement. Mais on voit que tout se met sous nos yeux. Une conférence de donateurs, mais à une condition que ça débouche réellement sur la création d'un État palestinien d'ici la fin de l'année. Voilà ce qui est proposé par notre Premier ministre en France, François Fillon. Alors Israël, il est en danger, bien-aimé. Et nous sommes appelés à regarder à l'Éternel, comme il a été au travers des Écritures et au travers de notre histoire contemporaine avec Israël, ainsi il le sera. Et c'est ce que dit la parole, on peut lire les versets 16 et 17. « En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. » Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui est un objet d'effroi. D'ailleurs, le Premier ministre et d'autres disent leur crainte de ce qui se passe en Égypte. Parce que l'Égypte a une grande armée. Et jusque-là, quand bien même ce n'était pas un véritable accord de paix, il y avait quand même des relations. Certes, jamais le pharaon égyptien Moubarak n'est venu en Israël, mais les ministres israéliens venaient en Égypte. Il y avait une certaine paix, mais qui préparait ce à quoi on va certainement assister. Mais le Seigneur va changer les choses. Le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Et je terminerai par ça, et c'est ce magnifique texte. Retenez ce chapitre d'Ésaïe 19, parce que non seulement il est brûlant d'actualité par rapport à ce qui est en train de se passer, mais comme je vous l'ai dit en introduction, si cette parole est parole de Dieu, c'est parce que cette parole qui parle de manière brûlante pour aujourd'hui, elle traverse l'histoire. Elle va continuer de le faire. Elle nous enseigne, elle nous enseignera jusqu'au bout, comme le finit ce chapitre, jusqu'à ce que l'Éternel règne, quelle est la marche de ce monde, la marche du Moyen-Orient. Et ainsi, on peut se confier puissamment en notre Dieu qui nous dit, verset 18, « En ce temps-là, et ça veut dire dans les derniers temps, ça parle de ces temps messianiques, quand l'Éternel va se lever pour combattre avec son peuple, parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est certain que ça prépare une guerre. C'est absolument certain. Déjà, j'ai envie de vous dire, c'était déjà certain avant tous ces troubles de ces dernières semaines. Alors avec ces dernières semaines, ça, comme on dit, si c'était tamponné à l'encre, eh bien maintenant c'est gravé au fer rouge, vous voyez. Eh bien, l'Éternel va intervenir. Et c'est une promesse. Et c'est tous ces pays qui font peur à Israël et qui amènent une haine, qui seront eux dans l'effroi. Parce que l'Éternel combattra pour eux, comme on voit ça dans nombre de prophètes, en particulier le prophète Zacharie. Et il nous est dit, alors en ce temps-là, c'est temps messianique que le Messie va pouvoir apporter. Et le Messie viendra quand toutes ces nations se ligueront contre Israël. C'est pour ça qu'Israël, revenu sur sa terre, est le signe des signes. Et que cette haine qui grandit et qui monte contre Jérusalem est le sceau que le Seigneur revient pour défendre son peuple. J'aimerais peut-être pouvoir parler de cette abomination de la désolation. J'en ferai certainement mention dans un séminaire. On peut dire beaucoup de choses. C'est peut-être mon interprétation personnelle. Mais j'ai une conviction que cette abomination de la désolation, il faut la voir justement avec le Saint-Esprit de Dieu au travers de l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé au travers de l'histoire? Cette prophétie donnée par Daniel s'est accomplie dans l'histoire d'Israël par Antiochus Épiphane, qui est monté avec ses armées contre Jérusalem, contre la Judée, voulant profaner la Torah et établir la statue, ce qu'il a fait de Zeus dans le temple, en profanant le temple. Et en tout cas, une facette claire que je nous invite, en tout cas, à méditer et à retenir, c'est que cette abomination de la désolation, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention, que celui qui étudie fasse attention, eh bien, je crois que c'est en particulier cette montée des armées, comme c'était le cas d'Antiochus Épiphane, cette montée des armées contre Jérusalem, pour en faire un désert. Pour en faire, comme Jean-Marc Taubois l'enseigne, lui qui est érudit, en particulier au niveau des langues bibliques. Comme il le dit, je dis pardonnez-moi, mais ça veut dire la crotte qui rend désert. Le véritable terme. Eh bien, c'est tout ce que veulent faire tous ces pays. C'est monter pour faire d'Israël une crotte qui rend désert. C'est pour jeter les Juifs à la mer, comme ils le disaient en 48, comme ils n'ont cessé tout au travers de l'histoire d'Israël contemporaine depuis 48, de rendre ce pays désert, comme il l'était avant qu'Israël revienne sur sa terre, pour le faire refleurir. Ils veulent en refaire un pays maudit, pourrait-on dire. Le pays était maudit avant que les premiers pionniers reviennent et qu'ils meurent de la malaria, pour assainir les marais, et pour en faire cette plaine de Jisréel aujourd'hui, la plaine la plus fertile en Israël, là où les armées vont monter. Vous voyez, c'est tout ce qui était fait avant, et maintenant qu'Israël est revenu sur sa terre, selon les promesses de Dieu, la terre refleurit, mais tout ce que veut faire les pays d'alentour qui sont en train de s'allier aux pays occidentaux, comme j'en ai parlé l'autre soir très rapidement, cette alliance contre nature du fer et de l'argile, ils veulent rendre Israël à nouveau comme un désert, comme une malédiction, qu'elle appartienne à l'islam alors qu'elle a été promise par Dieu. Et pour ça, ils doivent le faire par la force. C'est ce qu'ils ont essayé de faire jusque-là. S'il y a eu du calme, eh bien c'est pour se renforcer, pour enfin arriver au bout. Mais en ce temps-là, parce que l'Éternel interviendra lorsque ces nations monteront, et on voit à travers ce que dit la France, à travers le président Obama, il dit qu'il prie pour la paix dans le monde, vous voyez, pour que tout ça puisse se calmer et que tout aille bien, vous voyez. Non, Israël va être de plus en plus accusé, accusé faussement, va être pris pour ce bouc émissaire. Et c'est ce qu'on voit dans l'actualité aussi. Salam Fayyad, le premier ministre palestinien, vous savez ce qu'il arrive à dire? On l'écoute aujourd'hui. Aujourd'hui même, il dit que ce qui se passe en Égypte, c'est à cause d'Israël, c'est la faute des pourparlers de paix qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors que quand vous connaissez profondément les choses, eh bien Israël a gelé les constructions, il a libéré plusieurs barrages, ce qui met en danger sa population, il a allégé le blocus à Gaza, il a fait plein de gestes. Les Palestiniens n'ont rien voulu savoir. Et sans être même pro-israélien, quelqu'un de parfaitement neutre, s'il étudie un petit peu ce qui s'est passé, dira « C'est à cause des Palestiniens que les pourparlers n'ont pas continué. » Mais, voyez, cet esprit de mensonge qui vient non seulement au Moyen-Orient, mais qui conditionne et renouvelle non pas selon l'Écriture et la pensée du Saint-Esprit, parce que c'est des gens qui ne s'offrent pas, comme dit Romains 12, verset 1-2, qu'on puisse s'offrir sur l'autel pour être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, pour voir la volonté de Dieu. C'est des gens qui veulent garder leur vie, qui veulent le règne de l'homme, qui veulent l'idole et la statue de l'homme. Eh bien, on a vraiment un esprit de mensonge, de confusion, d'ivresse, qui vient sur le monde et qui va amener aux choses dernières. Mais le Seigneur va se lever et le Seigneur va combattre. Et alors, voyez ces promesses finales par lesquelles je conclus. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Et l'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. Et ça, lorsqu'on étudie, c'est Héliopolis qui est la ville d'adoration des idoles du soleil. Ça veut dire qu'en ce temps-là, 5 villes totalement converties, on pourrait dire, au Dieu d'Israël, qui parlent la langue des Cananéens, ça paraît bien sûr impossible. Mais c'est ce que Dieu va faire quand il va venir dans sa gloire. Et je vous invite à prier, parce que je crois que le chaos qui se passe en ce moment en Égypte, eh bien, il va amener des gens, comme on va terminer par le lire, à crier à l'Éternel. Il va amener des Arabes qu'on doit soupirer à voir comme nos frères, qu'on doit soupirer à voir être réconciliés avec ce Dieu d'Israël, comme nous avons été réconciliés. Ça va les amener à crier à Dieu. Et je crois qu'on est vraiment dans ces derniers temps. Et ce qui se passe en Syrie et à Gaza, comme je viens de le dire tout à l'heure, est pour moi encore un signe et une preuve qu'on arrive vraiment au bout. Parce que on pourrait dire que on a là la claire manifestation, un clair enseignement, que cette alliance entre le fer et l'argile, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible. Parce que si en Syrie, et si même à Gaza, eh bien, il y a des jeunes en particulier qui commencent à se révolter. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de terreur. Et c'est ce que l'on lit encore dans la prophétie. Il nous est dit: « Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Et ça, c'est ce qui va se passer certainement en Égypte et même au Moyen-Orient, sous la domination de l'Iran. Voyez. Et là, exactement comme ça s'est passé en Iran lors des dernières élections, il va y avoir des soulèvements. Il y a des soulèvements qui vont amener les islamistes au pouvoir. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, même dans les pays arabes, eh bien, en particulier les jeunes, ils sont occidentalisés. J'aurais envie de vous dire, ils sont pourris par le péché de l'Occident, mais n'empêche que ça leur donne de concevoir une certaine liberté qui, sous l'oppression de ces rois cruels, de ces répressions comme on l'a vu en Iran, vont leur donner d'être prêts à verser leur sang en allant dans la rue et vont leur donner, devant ce chaos, de crier à Dieu. Et alors je crois que Dieu se révélera à eux. Notre frère, qui est là parmi nous, hier midi, nous a raconté cette femme qui, en Iran, a pu se brancher sur une radio chrétienne émise depuis Jérusalem. Et elle a entendu une prédication. Et cette prédication disait « Ouvre la porte !» en parlant de la porte de son cœur. « Et tu verras que Jésus sera là et il rentrera chez toi pour souper avec toi » selon ce verset de l'Apocalypse. Et cette femme, c'est bien réel, c'est quelque chose qui s'est passé. Toute innocente, elle a dit « Ah oui, c'est ça !» Elle est allée ouvrir sa porte, la porte de son appartement. Elle a une vision du Seigneur. Et elle s'est convertie. Et comme le disait notre frère, il y a besoin de telles conversions pour tenir jusqu'au bout. Et je crois que c'est, on a des récits ici où il y a énormément et de plus en plus de musulmans qui reçoivent des révélations surnaturelles. Et donc je crois que ce chaos, eh bien, il va amener un cri, comme on le lit ici. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Voyez comme cette parole, elle est puissante, elle est merveilleuse. Et combien on peut se confier en cette parole de Dieu. Et le Seigneur œuvrera et établira son règne. Alors, on parlera la langue de la Bible. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Et l'Éternel, verset 21, sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ça nous parle de ce sacrifice qu'ils auront reçu et dont ils feront des actions de grâce de Jésus, de ce Messie, le seul principe de réconciliation, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le seul principe de paix qui revient bientôt. Ça fait écho, bien sûr, aux prophéties d'Ézéchiel. Après qu'il ait amené ce temps de rafraîchissement, ce temps de guerre, cette guerre de Gog et Magog, eh bien, cette reconstruction du temple où on offrira des sacrifices nous parle de ce règne de paix que le Messie, le temple étant le lieu de la réconciliation, le lieu de la communion avec Dieu, aura apporté sur notre terre. Et ils feront des sacrifices, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, comme il est en train de faire. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. C'est merveilleux. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Dans la Bible, l'Égypte et l'Assyrie, c'est les deux puissances, les deux grands ennemis au milieu desquels était Israël. Et cette haine qui venait contre Israël, eh bien Dieu, on va en faire une route de paix, bien-aimé. Il en fera non seulement une route de paix, mais écoutez-moi bien. L'Égypte et la Syrie, si c'était deux puissances qui menaçaient l'existence d'Israël, elles étaient aussi deux puissances qui poussaient les Israélites à pécher et à ne pas se confier en Dieu. Et à ne pas se confier en Dieu. Et ça nous parle, à nous chrétiens aussi, de cette chair, de ce monde, et même pour l'Israël actuel, qui pourrait vouloir se confier dans sa propre force au lieu de se confier en l'Éternel seul, qu'Israël le dise, comme on a lu ce psaume 124, que seul l'Éternel peut les défendre. Eh bien, quand le Seigneur reviendra, ces puissances, pourrait-on dire, de tentation, d'égarement, ne seront plus là. Mais ce sera une vraie résurrection d'entre les morts, une véritable paix. Alors les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te remercions parce qu'elle est vraiment puissante. Elle est vraiment lumière. Elle est vraiment sagesse. Et nous voulons regarder tout ce qui se passe aujourd'hui au travers de cette parole pour ainsi nous confier avec grande assurance en toi et être poussés à prier avec compassion pour ton peuple qui est dans la peur, pour ces peuples alentours qui sont dans le chaos, pour ces peuples occidentaux qui dorment. Ô Seigneur, fais de nous ces sentinelles qui prient. Merci que ces paroles nous donnent conscience et force pour prier, clarté pour prier selon ton cœur. Et ainsi fais de nous ces hommes et ces femmes debout, ces témoins que tu cherches. Amen.